Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Sortie de veille, le podcast hebdomadaire de Mac Génération. Ceci est une révolution. Non, je ne parle pas du Vision Pro, mais de l'ouverture de l'iPhone en Europe. Apple est contrainte de lâcher du lest sur le contrôle de sa plateforme. Pour se conformer à la législation sur les marchés numériques, le fameux DMA, Apple a annoncé de nombreuses mesures qui vont bouleverser la distribution et les capacités des apps iOS. On va détailler tout ça avec Christophe. Dans le reste de l'actu, la voiture Apple refait parler d'elle. Le projet d'Apple Car serait toujours sur les rails, mais ses prétentions auraient été revues largement à la baisse. Et cette semaine, on a bien sûr fêté les 40 ans du Mac. Nous sommes le samedi 27 janvier, voici les dernières infos qu'il ne fallait pas manquer. L'année 2024 commence décidément sur les chapeaux de roue, tandis que le Vision Pro est au coin de la rue. L'écosystème iOS s'apprête à vivre une révolution. Salut Christophe, ça va ?
Salut Stéphane, bonjour à tous. Oui, ça va. Par contre, je sais pas toi, mais cette semaine, on a tous pris quand même un petit coup de vieux avec les 40 ans du Mac.
Oui, c'est vrai. Ouais. Et est-ce que tu es prêt à télécharger tes apps depuis le Xbox Store ?
Oh là là, mais je savais que ces histoires, c'était des conneries, mais quelle horreur. Non, mais plus sérieusement, ça va générer peut-être des frustrations chez certains possesseurs d'iPhone ayant de vieilles, étant bloqués sur une vieille version d'iOS.
Ah oui, c'est vrai. Bah écoute, on va entrer tout de suite dans le vif du sujet. Alors donc, pour se conformer au DMA, qui vise à insuffler de la concurrence sur les grandes plateformes, Apple a annoncé toute une série de changements. Ces changements vont se concrétiser dans iOS 17.4, qui est en bêta actuellement, et qui sera en version finale en mars, sachant que la date butoir pour respecter le DMA, c'est le 7 mars. Donc on va détailler toutes ces mesures une par une. Alors la première grande mesure, c'est les boutiques tierces d'applications. Qu'est-ce que c'est, Christophe, ça ?
Oui, donc ça c'est la première nouvelle, mais ça on l'avait dit, il y aura bien des App Store tierces. Enfin, si certains acteurs se risquent à ce petit jeu-là, enfin, je pense qu'il y a quand même quelques sociétés qui ont indiqué qu'elles avaient qu'elles voyaient un intérêt dans ces App Store tiers, notamment Microsoft, Facebook et Google, qui ne rêvaient que de ça. Maintenant, il faut voir si les conditions imposées par Apple, si ces sociétés-là vont accepter ces conditions-là, qui sont quand même assez lourdes. Bon, ça ne veut pas dire pour autant que ce sera open bar à tous les étages. Les applications iOS devront toutes être notariées, comme c'est déjà le cas depuis quelques années pour les apps macOS. Ce processus de certification sera à la fois automatique et soumis à un contrôle humain. Donc ça veut dire que malgré tout, Apple garde la main sur pas mal de points. De leur côté, les développeurs qui voudront ouvrir leur propre boutique d'app devront aussi obtenir une autorisation spéciale d'Apple. Enfin, c'est ce qu'on va voir finalement avec le DMA. C'est très 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 verrouillé et à la fin, ça donne quand même une belle usine à gaz.
Et on peut préciser tout de suite aussi que on pourra télécharger des applications sur d'autres boutiques que l'App Store, mais ça sera impossible de télécharger des applications depuis le site d'un éditeur, comme on le fait sur Mac, par exemple. C'était une question qu'on avait par rapport au DMA. Là, Apple dit « Ok, c'est d'accord pour, par exemple, un Xbox Store, mais si vous voulez télécharger une application d'un petit éditeur, voilà, ça ne sera pas possible depuis son site web. »
Et il y a un autre point important. Pour l'instant, le DMA et toutes les annonces qui ont été faites ne concernent que iOS et iPadOS n'est pas concerné par tout ça.
Alors, deuxième point, les systèmes de paiement tiers seront autorisés dans les apps distribuées sur l'App Store. Est-ce que tu peux expliquer un peu ça, Christophe ?
Ah oui, alors les commissions, elles vont baisser. C'est a priori une bonne nouvelle pour les développeurs, a priori. Alors, sur les ventes effectuées sur l'App Store, Apple prendra une commission de 17%. Ce chiffre est même abaissé à 10% pour les petites entreprises. Cette commission, elle est obligatoire. Il n'est pas question de passer dessus. Si justement pour les encaissements, vous continuez à utiliser le système de paiement d'Apple, il faut ajouter à cette commission une commission supplémentaire de 3%. Donc ça fait 20% pour les éditeurs traditionnels et 13% pour les petits éditeurs.
Alors ça, c'est pour les apps distribuées sur l'App Store. Mais les éditeurs peuvent éviter la commission d'Apple en passant par une boutique tierce.
Mais attention, il y a un one more thing. Il ne faudrait quand même pas qu'Apple perde de l'argent dans cette histoire. Et c'est pour ça que Lucas à la compta a eu l'idée d'une taxe, une idée assez brillante, je dois le dire. L'idée est simple, c'est de faire facturer les téléchargements aux éditeurs. Donc, chaque première installation annuelle sera facturée 0,5 euros. Mais attention, hein, le premier million de téléchargements est gratuit. Donc, c'est dès qu'on a dépassé le millionième de téléchargements, chaque téléchargement supplémentaire est facturé 0,5 euros. Cette idée de génie a un petit nom, ça s'appelle Core Technology Fee. Et elle est valable sur l'App Store, mais également sur les App Store alternatifs. Apple dit que cette taxe ne concerne que 1% des développeurs, mais on imagine que les Google, Facebook, Netflix et autres Spotify ont dû sauter au plafond quand ils ont appris la mauvaise nouvelle. Précisons que, notamment pour le taux des commissions, il faut que les développeurs acceptent les nouvelles conditions de vente d'Apple et ils ne sont pas obligés de le faire. Et c'est ce qu'on est en train de voir, il y a certains cas de figure où les nouvelles conditions générales de vente ne sont pas du tout intéressantes pour les éditeurs. Alors, l'idée d'Apple est sans doute de garder bien au chaud, par exemple, les éditeurs qui sont extrêmement rentables, par exemple, les éditeurs de jeux qui font beaucoup d'achats in-app et qui sont de vraies usines à cash. Alors, elles auront le choix, soit elles restent sur l'ancien système avec une commission de 30%, ouais. Soit elles adoptent le nouveau système, donc elles paient moins de commissions, mais attention, ces sociétés-là font énormément de téléchargements, donc la facture pourrait vite devenir salée. Et puis moi, il y a une dernière chose que je trouve assez intéressante, c'est que finalement, la rentabilité de l'App Store va être quelque part financée par ses détracteurs. Parce que les sociétés qui font énormément de téléchargements, ce sont les Google, les Facebook, les Netflix, les Spotify, tous ceux qui avaient déjà des problèmes, on va dire, relationnels au sujet de l'App Store avec Apple.
Et pour aider les développeurs à s'y retrouver un peu dans tout ce millimélo, il y a une calculatrice qui aide à calculer, voilà, combien on paiera de commissions selon qu'on utilise l'ancien système de paiement, de facturation ou le nouveau.
On a l'impression de se lancer dans une simulation sur les impôts.
il y a un peu de ça.
Mais c'est plus joli.
Ouais. Un autre point très très important du DMA, ça concerne iOS et non pas l'App Store, c'est la fin de l'hégémonie de WebKit. Est-ce que tu peux aussi nous expliquer ça, Christophe ? Qu'est-ce qui va se passer ?
Ah oui, alors ça, finalement, je ne sais pas si c'est... Peut-être que c'est la plus grande annonce. Donc, on va pouvoir installer prochainement... Alors, Chrome, Google avait fait part, travaillait déjà sur le sujet depuis quelques mois. Je ne sais pas ce qu'il en est pour Firefox. Mais donc, on devrait avoir sur l'App Store, on devrait pouvoir télécharger des navigateurs web avec d'autres moteurs de rendu que WebKit. Donc ça devrait permettre au, notamment à Google et qui sait à Firefox, de proposer des expériences beaucoup plus cohérentes, parce que jusqu'à présent, les navigateurs tiers que l'on trouvait sur iOS étaient souvent une coquille vide, c'est-à-dire qu'on utilisait le moteur de Safari, il y avait juste l'interface qui changeait, quelques fonctionnalités. Là, c'est le Chrome que vous connaissez sur Mac, vous devriez l'avoir sur iOS, et vice-versa. On espère d'ailleurs que les navigateurs alternatifs, notamment Arc, qui a beaucoup de bonnes idées, en profitera. Enfin, ça, on connaît pas encore leur plan là-dessus. Mais alors, c'est très intéressant, parce que beaucoup se disaient, oui, iOS est limité à WebKit, et c'est un peu limitant. Après, alors je cherche pas forcément à répéter le discours d'Apple. C'est aussi un moteur de rendu. C'est un projet très complexe, donc c'est potentiellement de nouvelles failles de sécurité sur nos terminaux, parce que chaque moteur de rendu a ses failles de sécurité. Je dis pas que WebKit est mieux ou moins bien qu'un autre, hein, mais ce sont des projets tellement complexes que pour les esprits mal intentionnés, ça va être clairement de nouveaux vecteurs d'attaque.
Après, à l'inverse, on peut dire aussi que voilà, s'il y avait une faille dans WebKit, ben, tous les utilisateurs d'iOS étaient concernés. Tandis que là, voilà, s'il y a une faille dans WebKit, mais que tu utilises Firefox avec Gecko, ben, tu n'es pas concerné par le problème, quoi.
Oui, mais alors, c'est quand même utilisé un peu partout dans le système. Mais après, c'est vrai que ça, peut-être que ça a même un avantage d'ailleurs d'un point de vue sécurité. C'est que, donc, on imagine, enfin, ces applications seront distribuées sur l'App Store et donc elles seront mises à jour très rapidement via le mécanisme de mise à jour de l'App Store. Et finalement, c'est peut-être l'un des problèmes de Safari à l'heure actuelle, c'est qu'il y a énormément de gens qui traînent à faire les mises à jour et qui se retrouvent avec des Safari, entre guillemets, vérolés pendant plus de temps que, voilà. Donc finalement, de ce point de vue-là, c'est plutôt une bonne chose, effectivement.
Ouais. Et pour terminer sur le point des navigateurs aussi, ce que je trouve hyper intéressant, c'est que bah, là, les navigateurs tiers, jusqu'à présent, ils ne pouvaient pas avoir d'extension. La version Android de Firefox est ouverte aux extensions de Firefox. Donc potentiellement, on pourrait avoir un Firefox iOS avec les extensions de Firefox Mac. Et sachant que Firefox a des extensions assez populaires qui ne sont pas disponibles sur Safari parce que WebKit ne prend pas forcément en charge toutes les mêmes choses que Firefox, ça pourrait apporter des nouvelles extensions intéressantes sur iOS.
Mais pour Apple, c'est un vrai danger parce que finalement, Safari, le succès de Safari, c'est iOS. Et si les navigateurs tiers viennent à prendre une part importante... On va dire 40 ou 50%, quand on connaît la machine de guerre de Google, rien n'est impossible. Ça pourrait mettre, enfin, à terme, on pourrait imaginer que le moteur de rendu d'Apple soit un petit peu délaissé. C'est un vrai risque. Ouais. Mais moi, ce que je trouve positif, finalement, c'est que je trouvais que Apple s'était un peu endormi sur ses lauriers avec les dernières versions de Safari qui n'évoluaient qu'à minima, je trouve. Et j'espère que ça va un petit peu relancer la machine. Enfin, ça, on verra ça à la WDC à l'été, cet été.
Autre point d'ouverture du DMA, c'est l'ouverture de la NFC de l'iPhone. C'est aussi un changement important.
Ah, clairement, c'est ce qui signifie, autrement dit, c'est la fin du monopole d'Apple Pay.
Ouais.
C'est presque étonnant que ça ait duré si longtemps. Donc, les applications de paiement pourront se servir de la puce NFC sans passer par Apple Pay ni l'app carte. Pas Apple Card, hein, ça n'existe pas encore. Alors, je suis très curieux de voir les conséquences que cela va entraîner. Ça peut être à double tranchant, hein, parce que Apple Pay est quand même très pratique pour les utilisateurs. Est-ce qu'on va se retrouver avec des banques qui vont vouloir faire machine arrière et imposer un système avec des histoires de login, faire des choses extrêmement compliquées? Ouais, je suis impatient de voir ce que cela va donner, mais c'est sûr que que Apple a le monopole sur une puce dans son téléphone. Ça ne pouvait pas durer éternellement, cette affaire.
Et enfin, dernier point, alors c'est un peu spécial parce que celui-ci n'est pas valable uniquement pour l'Union européenne, mais il a été annoncé en même temps que les autres et ça découle en fait du DMA en quelque sorte. C'est l'autorisation des services de cloud gaming sur iOS.
Oui, alors ça va être une petite révolution dans le domaine du jeu. On sait que Microsoft était très intéressé par l'iPhone. Ils avaient fait plein d'efforts, ils avaient tout fait pour arriver sur l'App Store d'une manière ou d'une autre, et ils n'y étaient pas arrivés, donc c'est une concession d'Apple. On sait que Amazon avait des projets dans ce domaine-là. On sait aussi que Netflix cherche à renforcer son offre de jeux et qu'elle connaît a priori un certain succès, même si c'est pas forcément du cloud gaming. Bah là, j'ai envie de dire, tant mieux pour les utilisateurs, ceux qui veulent jouer avec de vrais jeux sur leur iPhone auront cette possibilité-là. Enfin, c'était possible, hein, mais il fallait passer jusqu'à présent via un navigateur c'est ça, web, ouais. C'était pas forcément très plaisant. Donc là, ça va sans doute démocratiser cette pratique. À voir, et à voir comment Apple va réagir, notamment avec Apple Arcade. Est-ce que ça va la pousser, est-ce que ça va la booster à passer à la vitesse supérieure? Ça, seul l'avenir nous le dira. Comme le succès de ces différentes propositions, est-ce qu'on aura finalement... c'est une vraie question hein, de savoir est-ce qu'on aura deux ou trois App Store alternatifs ou est-ce qu'on en aura des dizaines? De la façon dont le cadre est planté, je pense que il y a des sociétés qui vont y réfléchir deux ou trois fois avant de se lancer. Alors, quand on a les moyens de Google ou de Microsoft, on peut à la limite y aller tête baissée. Mais quand on est un acteur plus petit, je suis pas certain que ce soit une bonne idée.
Faudra voir. Ouais. C'est une des questions, une des nombreuses questions qui seront à suivre dans les prochaines semaines, prochains mois avec le DMA. C'est vrai qu'il y a évidemment les gros acteurs qui sont intéressés par l'ouverture de boutiques tierces, mais il y a aussi des plus petits qui ont manifesté leur intérêt. Je pense à Setup ou Altstore, donc on suivra ça. En tout cas, ça va faire beaucoup de concurrence à Apple sur sa propre plateforme. Donc on suivra ça dans les prochains mois. On va passer à un autre sujet. Alors maintenant que le Vision Pro est presque une réalité, on peut se mettre à rêver du prochain produit d'Apple. Et ce produit, bah, ça pourrait être une voiture. Les rumeurs s'étaient calmées à ce sujet depuis quelques années, mais Mark Gurman les relance. D'après le journaliste de Bloomberg, Apple prévoit de commercialiser sa voiture en 2028 au plus tôt. Le projet aurait été complètement remanié. Au départ, Apple voulait créer un véhicule totalement autonome. Finalement, la conduite autonome se limiterait au niveau 2 sur 5, c'est-à-dire que la voiture pourrait accélérer et freiner d'elle-même ainsi que suivre les voies. Alors ça n'a plus rien d'original aujourd'hui, c'est ce qu'on trouve dans de plus en plus de voitures, je pense au Tesla. Apple compterait se démarquer avec un design élégant, des dispositifs de sécurité innovants et une interface utilisateur unique. Est-ce que tu crois que ce projet se concrétisera un jour, Christophe ?
Alors, je ne comprends pas pourquoi Apple commercialise aujourd'hui en 2024 le Vision Pro et non pas une voiture. Le timing, c'est toujours quelque chose de très très important. Cela a toujours été la force d'Apple, et là, j'ai l'impression qu'elle est en train de rater le train. Je prends comme ça quelques exemples. Hein, voilà. Quand je dis que le timing, ça a toujours été une force d'Apple, voilà, on parle du Mac, par exemple. Revenons à la fin des années 90. Les gens cherchent une manière simple et élégante de surfer sur Internet. La réponse d'Apple, l'iMac. Boum. Succès immédiat. Même si tout n'était pas parfait à l'époque, voilà, cette machine a quand même permis à Apple largement de redorer son blason. Au début des années 2000, tous les geeks du monde entier bricolent des MP3. Hein, donc voilà, on télécharge, on essaie de graver, on fait jouer sur l'ordinateur, mais dès qu'on est dehors, on n'a plus de MP3, on se sent bête. Donc à l'époque, on grave des CD ou on transfère des MP3 sur des disques durs, avec notamment les Arcos et compagnie. Bref, il y a une multitude de solutions sur le marché, mais il n'y a rien de vraiment pratique. Et là, qu'est-ce que fait Apple? Elle sort l'iPod. Et c'est le succès que l'on connaît. Voilà, quelques années plus tard, même chose. On parle beaucoup d'Internet mobile, les réseaux 3G qui se développent mais qui servent à rien. Il y a des smartphones sur le marché, mais on tourne un peu autour du pot. Les téléphones avec Windows Mobile sont d'une complexité affolante. Les BlackBerry qui étaient à la mode sont surtout axés sur le mail. Bref, personne n'a trouvé la bonne formule. Et là, boum, Apple arrive et sort l'iPhone. On connaît la suite. Et c'est tout le côté assez perturbant dans cette époque. Apple sort actuellement le Vision Pro. Un produit pour lequel il y a zéro intérêt au marché. Alors on nous dit ce qui est intéressant, c'est la plateforme, patati patata. On a l'impression d'être replongé dans le discours de Microsoft, justement des années 2000, avec sa plateforme Windows 2000. Mais pendant ce temps, il faut le dire, et on le voit d'ailleurs dans les réactions de Mac Génération, tout le monde n'a Dieu que pour les Tesla, qui sont décrites volontiers comme des smartphones sur roues. Le marché se structure à toute vitesse, la transition vers l'électrique avance beaucoup plus vite qu'on le pensait. D'ailleurs, Tesla a été détrôné en termes de vente sur le marché, le segment des voitures électroniques par BYD. Et voilà. Et pendant ce temps, Apple, c'est ce que je disais tout à l'heure, elle regarde les trains passer. Au début, il était question de 2024-2025. Maintenant, c'est 2028. Alors, qu'il y ait du retard dans un tel projet, pourquoi pas? Mais en plus, avec des objectifs revus à la baisse, c'est difficile de parler, hein, sachant qu'on ne connaît absolument rien, mais on a l'impression de ce qu'on en voit que c'est trop peu, trop tard.
Ouais.
Donc, à voir. Alors, certes, Apple a maintenant une force de frappe considérable, mais autant elle peut se permettre de, par exemple, d'aller voir TSMC, de dire tous tes processus de fabrication en 3 nanomètres, je les prends, autant faire le même coup dans l'industrie automobile, ça me paraît un peu plus compliqué.
Et on va terminer le tour de l'actu en souhaitant un joyeux anniversaire au Macintosh. Le 24 janvier, le Mac a eu 40 ans. Alors c'était évidemment un événement car le Mac a révolutionné l'informatique personnelle. On ne reviendra pas ici sur toute son histoire. Vous trouverez de nombreux articles sur Mac Génération. Nous avons mis en avant quelques modèles emblématiques, interviewé plusieurs développeurs historiques et exhumé des documents d'archives, puis aussi présenté le système 1, une partie... De ces articles est réservé aux membres du Club IGN, alors si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner maintenant. Et puis les 40 ans du Mac, c'est bien sûr un événement particulier pour Mac Génération, parce que sans Mac, il n'y aurait pas Mac Génération. Alors Christophe, quel a été ton premier Mac?
Oui, c'est sûr que sans Mac, il n'y aurait pas de Mac Génération, mais c'est un peu la question que je me pose d'ailleurs. Enfin, c'est une question un peu...
T'aurais fait PC Génération?
Non, un peu tordu. Non, mais je me pose la question depuis quelques temps, je me suis dit, mais qu'est-ce que je pouvais bien faire ce 24 janvier 1984? Parce que finalement, c'est une date, quoi qu'on en dise, elle a tout changé nos vies. Hein. Enfin, je veux dire, voilà, mais là, bon, ben, moi, en 1984, j'étais innocent, j'étais en CE1. Voilà, donc j'avais aucune idée de ce que se trouve ce jour-là, qui était un jour, j'imagine, complètement abscon pour
banal.
Moi, voilà, banal, ouais. Et boum, il y a eu ça. Parce que des fois, dans une vie, on se souvient de dates, on se souvient tous, par exemple, de ce que faisait pendant les bons moments. Je pense à la victoire, par exemple, des Bleus en 1998, ou lors de moments plus sombres, comme le 11 septembre 2001, voilà. Avec le smartphone de nos jours, ce serait à peu près facile d'avoir une idée, de dire, oui, alors ça, c'était... en janvier, oui, je faisais à peu près ça avec quelques photos. Enfin, ça, on peut retrouver un petit peu le contexte, mais là, pas du tout. Bon, mais enfin, mon premier contact avec un Mac, il arrive un peu plus tard. Hein, c'est quand ma maman a décidé de se mettre au traitement texte dans les années 90. Elle avait compris que le Mac, c'était simple d'utilisation. Donc, on avait été tous les deux chez des revendeurs informatiques. Moi, à la base, je voulais plutôt un PC, d'ailleurs.
Pourquoi? Il y avait une raison particulière?
Non, mais je me souviens qu'on a vu un ordinateur qui était sans doute avec Windows, qui faisait envie, il avait un petit écran couleur, un sort de Paint. Je pense que je devais me dire qu'il devait y avoir des jeux, donc je voyais pas plus loin, quoi. Hein. Mais après, on a été chez un autre vendeur et on a vu, alors je sais plus c'était quoi, peut-être un... On a dû voir un Mac SE30, c'est le Mac par lequel qu'on a fini par acheter, sans doute un Mac 2. Et là, tout de suite, il n'y avait pas photo, ça a été effectivement la révélation. Pourtant, le SE30... il avait un écran minuscule de 9 pouces, sans doute beaucoup plus petit que le PC que j'avais vu. Mmh. Son écran, il n'était pas couleur, mais il avait un truc en plus qui paraissait beaucoup plus moderne. Notamment, parce que le truc qui m'avait marqué, à l'époque, sur le système, il y avait une extension qu'on pouvait installer dans le système et qui faisait qu'à chaque fois qu'on vidait la poubelle, il y avait un petit bonhomme qui sortait de la poubelle, qui chantait, qui refermait la poubelle. Je trouvais ça complètement magique. Donc c'est comme ça que je suis tombé dans la marmite. Après, pendant des années, j'ai bavé sur d'autres Mac plus puissants, comme le Mac de FX qui faisait rêver, mais qui devait coûter, j'imagine, à l'époque, 40 ou 50 000 francs, hein, donc ce qui rend le Vision Pro particulièrement accessible, presque. Voilà. Et il y a une autre machine aussi qui m'a fait beaucoup rêver, pour finir, c'est le Cube, mais le Cube du Next. Ça, je voyais ça dans des magazines, cette machine noire avec son architecture très décentralisée, son système qui paraissait complètement différent. Ça faisait rêver, d'ailleurs, ça, je trouvais ça beaucoup plus fort que le Power Mac Cube G4. Mais donc voilà, pour répondre à ta question, voilà, mon premier Mac, ça a été le SE30 et j'en garde de très bons souvenirs.
Eh bien, merci Christophe pour le retour sur l'actu, puis le retour sur ton histoire de Mac user.
Bon, ben voilà, on a tous pris un coup de vieux. Bon week-end à tous.
Bon week-end à tous et à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Sortie de Veille. Salut!